On va parler évidemment de COVID ce matin parce que, on le sait, à partir du mois de septembre, on a vu cette augmentation soutenue du nombre de cas de gens hospitalisés. Et pour ce qui est de Montréal, il semble en tout cas qu'on a atteint un certain plateau. Tout n'est pas parfait, mais ça semble vouloir peut-être se stabiliser. J'en parle ce matin avec Dr Mylène Drouin, qui est la directrice régionale de la santé publique de Montréal. Dr Drouin, bonjour.
Oui, bon matin.
Donc, vous avez cette impression-là que ça semble en tout cas à ce stade-ci vouloir se stabiliser.
Bien, il est évident là, que la progression et la croissance soutenue, elle est plus là, là depuis. Donc, on observe un plateau depuis 2 semaines. C'est un plateau qui est quand même assez fragile. Je n'irai pas jusqu'à dire là, qu'on. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais on a quand même encore quelques indicateurs là, qui nous préoccupent, dont les taux de positivité là, qui demeurent assez élevés, donc et très élevés dans certains quartiers. Donc, pour nous, il faut absolument maintenir les mêmes mesures populationnelles pour un certain temps, pour être certain là, qu'on maintient ce plateau et peut-être même une diminution, ça sera encore plus apprécié.
OK. Donc, en d'autres termes, je sais que c'est pas dans votre camp, mais quand même, là, de penser que la semaine prochaine, on va être en mesure de retourner à un certain assouplissement, ça semble pas réaliste.
Malgré le plateau qu'on voit, on est quand même, tous nos indicateurs demeurent dans le rouge, là. Donc, on est encore au palier rouge.
Okay.
Le gain qu'on a fait, c'est qu'on n'est plus en croissance exponentielle, comme on est en train de le voir, par exemple, dans des pays d'Europe, là, où clairement, là, la pente continue de progresser dans plusieurs pays. Donc, nous, le coup de barre qu'on disait qu'il fallait faire rapidement il y a 2 semaines de cela, ben je pense que on l'a quand même bien donné, en tout cas pour la région de Montréal. Maintenant, ben il faut essayer de voir comment on peut, de ce plateau-là, le transformer aussi progressivement en une baisse là, du nombre de cas.
Maintenant, les éclosions là, se produisent où? On comprend, il y a des cas là, qui sont plus sur la place publique. Je pense à des résidences pour personnes âgées. Je pense à certaines entreprises également. Il y a eu des écoles. C'est quoi le portrait des éclosions à Montréal?
Bien, actuellement, on a beaucoup d'éclosions en milieu scolaire. Donc, on le sait, les mesures qui ont été mises en milieu scolaire ont été mises une semaine plus tard. Donc, ils ont commencé vraiment la semaine passée. Là. Donc, on est rendu à peu près à 73 éclosions en milieu scolaire juste pour la région de Montréal, autour de 27 en service de garde, puis 70 en milieu de travail. La plupart des éclosions demeurent quand même de petites taille, à l'exception de quelques-unes en milieu scolaire, puis une en milieu de travail. Mais quand je regarde nos éclosions en milieu de travail, là, la majorité, c'est moins de 5 cas. Donc, on sont quand même très bien contrôlés. Par contre, le nombre est important, puis ça reflète évidemment là, la transmission communautaire, puisque l'acquisition se fait beaucoup dans la communauté, et ça importe soit à l'école ou en milieu de travail. Puis au niveau des résidences pour personnes âgées, on a eu quelques grosses éclosions dans les dernières semaines. Là, on est rendu à peu près à une vingtaine de milieux qui sont en éclosion, mais c'est les deux grosses éclosions qu'on avait, on a vraiment réussi à résorber le tout. Là, donc, on est vraiment sur la pente descendante là, des éclosions dans les milieux où il y avait on avait deux résidences pour personnes âgées, là où on avait un petit peu plus de cas. Donc, on est vraiment rendu sur la pente descendante. Donc, c'est quand même bien contrôlé.
Okay.
On s'était bien préparé cet été, donc on sort l'arsenal assez rapidement. Là.
OK. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'éclosions ou de cas dans les restaurants ou dans des commerces de détail, des magasins, donc des gens qui vont dans des endroits publics pour des activités commerciales, restaurants, magasins, et il y a eu des cas de COVID positifs.
Actuellement, au niveau des restaurants, c'est sûr qu'on en a plus, là, donc on n'a pas de...
Mais avant?
Active, on en avait très peu, et lorsqu'on avait des éclosions, c'était dans nos éclosions à petit nombre, puis c'était des éclosions qui se limitaient beaucoup aux travailleurs, donc pour lesquels on n'avait pas de transmission secondaire là, à la clientèle, et qu'on arrivait quand même assez bien à contrôler. Là. Donc, je dirais que le portrait, là, on a eu évidemment les bars là, fin juillet, où là, on a eu des... mais tant dans les bars ou les restaurants, comme je l'ai déjà dit auparavant, en septembre, c'était quand même un petit nombre dans la région de Montréal. Je sais que dans d'autres régions, ça a été autre chose, là, mais dans la région de Montréal, ça demeurait des petites éclosions limitées souvent aux travailleurs.
OK. L'autre question qui revient beaucoup de la part des auditeurs, puis là, c'est une préoccupation, puis comme on sait, là, c'est une question d'équilibre. La pratique sportive, tout en respectant des règles, là, on peut penser à des jeunes qui jouent au hockey, qui ont 7-12 ans, qui se retrouvent en nombre plus restreint sur la patinoire, il n'y a pas de vestiaire. Pensez-vous qu'on est sur le point de revenir à une certaine ouverture ou s'il faut patienter encore pour ces jeunes-là qui en ont besoin, là?
Bien, c'est certain que tant dans nos éclosions dans la communauté que dans les écoles, on voit que le sport est clairement un vecteur important. Puis ça va avec les éléments de la littérature où on le sait que les sports de contact où on respire et on a chaud souvent dans des espaces restreints intérieurs, c'est comme toutes les combinaisons parfaites là, pour amener la transmission du virus. C'est sûr que notre souhait, surtout pour ce qui est des enfants, c'est qu'ils puissent évidemment retrouver une certaine forme d'activité sportive, soit à l'intérieur de leur bulle classe ou dans d'autres contextes par études. Mais on le sait, puis on clairement, là, dans notre nouvelle normalité, malheureusement, parce que je suis la première en santé publique à vouloir promouvoir l'activité physique, puis ça fait partie de notre bien-être, là, mais clairement, on le sait que certains types de sport dans certains contextes sont vraiment propices à la transmission du virus et il va y avoir des balises un petit peu plus sévères là, à ce niveau-là, autant dans le sport civil que dans le sport chez nos jeunes.
Là. OK, est-ce que vous me dites quand ça va reprendre, mais ça va reprendre vraiment super encadré?
Ça devrait, oui.
Okay. Donc,
parce que c'est vraiment un vecteur là, important, puis on le voit encore, là, on en a plusieurs, là, plusieurs éclosions liées au contexte sportif. Là.
Je lisais ce matin qu'on ne teste pas assez les travailleurs, travailleuses du réseau de la santé. Puis là, on pense évidemment aux gens de première ligne qui sont donc dans les hôpitaux, dans les centres de soins de longue durée. Est-ce que c'est vrai qu'on teste pas assez? Et si c'est vrai, pourquoi?
On a une faible participation. Donc, le dépistage périodique dans des contextes pour les travailleurs de la santé qui sont vraiment dans des contextes auprès des personnes à risque, donc les aînés, entre autres, donc, il existe là, depuis la première vague. On a quand même une faible participation, puis c'est pas à cause des efforts qui n'ont pas été faits par les établissements. Là. Il y avait un peu plus, il y avait des mascottes et tout ça, puis le dépistage se faisait sur place. Je pense qu'il y a différentes barrières à vouloir. Est-ce que c'est pas obligatoire, donc est-ce que les professionnels se fassent tester? En même temps, ce qu'on voit, c'est que clairement, les taux de positivité sont très faibles. Et on est beaucoup en train de se poser la question si est-ce que c'est vraiment le test périodique qu'il faut faire ou faut vraiment tester dès qu'il y a un cas, là, on teste tout le monde très rapidement et tout ça. Donc, on est en train un peu de regarder quelle est la meilleure façon, en sachant que de manière périodique, c'est assez difficile d'avoir tout le monde à le faire à chaque semaine de façon très religieusement. Là. On a fait beaucoup d'efforts, mais on arrive quand même avec une proportion qui est assez faible et des taux de positivité qui sont faibles. Donc, c'est beaucoup de s'assurer que les gens ne rentrent pas au travail avec des symptômes. Donc, déjà un triage. Puis, dès qu'on a un cas, évidemment, là, il y a un dépistage beaucoup plus large qui se fait dans ces établissements-là qui sont à risque.
OK, mais je vous donne un exemple parce qu'on sait que ça arrive. Là, je comprends qu'il y a des consignes pour que ça soit le moins souvent possible, mais des gens qui doivent aller d'un établissement à l'autre ou qui passent d'une zone à l'autre, là, je sais qu'il y a tout un protocole, mais est-ce que ces gens-là sont testés en priorité?
Normalement, oui. Il y a des règles. Qu'il y a de la mobilité inter-établissement. Oui, normalement, les établissements et les ressources humaines ou les cadres là, de ces établissements-là doivent s'assurer que les gens ont soit été testés ou, en tout cas, qu'il y a quand même des règles. Tu ne peux pas passer d'une zone chaude à une zone froide et tout ça. Là. Donc, on a différents algorithmes pour s'assurer de rendre ça sécuritaire. Puis même la mobilité d'une main-d'œuvre doit être approuvée par un cadre là, responsable de la prévention, contrôle des infections. Donc, ces cas-là, il y a un registre et sont suivis. Là.
OK. Deux sujets importants qui sont reliés. Là. Vous avez parlé hier certains problèmes de santé mentale, d'anxiété. Et ça se manifeste. On voit des études, on voit des sondages. Êtes-vous préoccupé par ça? Moi, je vous donne des exemples très concrets de jeunes qui sont au niveau du cégep, qui n'ont pas de cours dans l'établissement, qu'à peu près à 95 % ça se fait à distance, qui trouvent ça extrêmement difficile, pas être capable de socialiser comme ils le souhaitent. On semble dire que ce sont les jeunes beaucoup qui souffrent d'anxiété.
Oui, les 18-25 ans, c'est toujours un groupe qui, en temps normal, hors COVID, ont toujours des taux des indicateurs de santé mentale, dépression, troubles anxieux, qui sont plus élevés que la moyenne, l'ensemble de la population. Mais là, on voit en COVID là, que c'est vraiment un groupe qui est encore plus touché. Puis je dirais que moi, je suis bien concernée. Là, j'en ai deux à la maison de ce groupe d'âge-là. Et je pense que c'est plusieurs facteurs qui expliquent évidemment tout ça. C'est vraiment un âge où on a besoin de socialisation, on a besoin d'être entouré, motivé. C'est un âge évidemment avec plein d'incertitudes où on se pose des questions sur notre avenir. Donc, c'est sûr que les données qu'on a sont inquiétantes. On va les travailler entre autres avec nos partenaires des milieux de l'éducation, mais aussi on le sait qu'une partie de ces jeunes-là, de ce groupe d'âge-là, sont pas nécessairement à l'école, au cégep ou à l'université. Donc, il faut vraiment qu'on travaille puis qu'on implique aussi les jeunes dans les solutions puis la recherche de solutions pour face à cette hausse-là de détresse, là.
Faut que je vous parle de la grippe saisonnière, là. Les gens m'écrivent en me disant on a de la misère à avoir des rendez-vous. On sait que les pharmacies maintenant peuvent, les pharmaciens administrer le vaccin, là. Comment vous voyez la saison de vaccination là contre l'influenza, là, la saison régulière, si je peux m'exprimer ainsi?
Mais c'est sûr qu'on le sait qu'on s'y attendait là, qu'on allait avoir une demande beaucoup plus importante là, que par les années passées. Notre modèle d'organisation des cliniques a dû complètement être changé parce qu'avant on faisait affaire avec des infirmières retraitées, puis on avait des cliniques de masse avec beaucoup de gens qui arrivaient en même temps pour se faire dépister. Donc dans le contexte de la COVID, c'est impensable. Heureusement, on a les pharmaciens qui vont nous aider et vont prêter main forte. Et on s'attend aussi à une saison grippale moindre. Fait que moi, j'encourage les gens, évidemment, à aller se faire vacciner. On est en train de rehausser les plages, trouver des nouvelles façons pour le rendre accessible. C'est sûr que là, il y a un engouement, surtout au début de la campagne, là, mais évidemment, on va rajouter des plages en fonction de la demande de la population. Mais je pense que, moi, je vois ça comme positif, dans le fond, de savoir que les gens sont au rendez-vous pour la saison de vaccination.
Okay. Est-ce que je comprends que c'est pas le nombre de vaccins qui est problématique? C'est plutôt le fait qu'il faut modifier la façon de l'administrer.
Oui, puis c'est aussi les ressources humaines liées à tout ça. Comme je vous disais, les infirmières qui allaient vacciner durant la saison grippale, c'était souvent nos infirmières, par exemple, au service courant ou dans les écoles. Mais là, actuellement, ils gèrent des éclosions dans les écoles. Donc, c'est tout le même personnel là, qu'il faut remobiliser, puis il faut trouver d'autres façons de faire. Donc, c'est sûr qu'il y a une complexité cette année là au niveau à la fois du modèle d'organisation de services et des ressources humaines.
OK. Merci beaucoup, Dr. Drouin. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir, Dr. Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique de Montréal.